Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut à toi, c'est Camille. J'espère que tu vas bien. Installe-toi confortablement pour le podcast Écoute un métier. En ce mois de février, je vais te présenter le métier de professeur du second degré. Il y aura deux podcasts consacrés à cette profession. Celui-ci est dédié au métier de professeur de mathématiques en collège. Je te souhaite une bonne écoute. Monsieur Abdelaziz Amani, bonjour.
Bonjour.
Tu enseignes au collège Jean Roux de Fondette depuis 16 ans. Tu enseignes les mathématiques.
Tout à fait, c'est ça.
Est-ce que tu pourrais donc nous expliquer ta formation et ce que tu as appris lors de tes études ?
Eh bien, donc ma formation générale, j'ai fait comme tout le monde après un bac scientifique obtenu au Maroc. Je suis venu en France, donc j'ai fait la fac, j'ai fait une licence, puis après un diplôme d'ingénieur, mais dans l'agroalimentaire. Donc j'ai fait mes stages à l'INRA, et puis après j'ai intégré l'éducation nationale, mais j'étais en même temps, quand je faisais mon diplôme d'ingénieur, j'étais maître OX.
Pourquoi avoir changé donc, pour être professeur de mathématiques ?
Eh bien, parce que j'ai commencé donc quand j'étais étudiant, j'avais besoin justement d'avoir un peu d'argent, hein, étant du Maroc, donc je n'avais pas la famille assez riche pour fournir, donc il fallait travailler comme à la fac. Quand j'étais en licence, ils cherchaient des étudiants pour faire des cours en tant que maître OX, et étant étudiant étranger, j'ai accepté, donc j'ai commencé en tant que maître OX, et c'est pourquoi ça m'a plu et j'y suis resté, quoi.
D'accord. Et donc, pourquoi cette matière ? Pourquoi les mathématiques ?
Alors là, c'est une bonne question. Pourquoi pas les maths, je dirais ? Mais donc, les maths, parce que c'est quand même quelque chose de cadré, de logique, et qu'on trouve dans tous les domaines. Hein. Donc, les maths sont partout. On peut commencer par les domaines les plus connus, ingénieur, astronaute, mais cuisinier a besoin des maths, un jardinier a besoin des maths, un carreleur a besoin des maths, un menuisier. Donc pourquoi pas ? Et puis c'est quand même une matière qui apprend la logique, le raisonnement. Et puis pour bien former les gens, moi les maths, je pense que c'est quand même bon pour l'esprit et j'aime bien les maths. Voilà, et puis un peu d'abstraction, ça fait pas de mal.
On me dit souvent que quand on est professeur, il faut d'abord aimer le contact avec les élèves avant d'aimer la matière. Est-ce que c'est ton cas ou est-ce que les maths prennent plus le dessus que l'enseignement ?
Eh bien, non, pour moi, les deux vont de pair. Si on n'aime pas les élèves, on ne peut pas faire passer le message. Donc, si on aime que la matière toute seule, donc on ne pourra pas aller loin avec ça. Et si on aime que les élèves aussi tout seul, et on reflète l'image d'une matière qu'on n'aime pas, ce n'est pas bon non plus. Donc, pour moi, il faudrait que les deux soient là. Il faut aimer sa matière, aimer ce qu'on fait, et puis aimer les élèves pour pouvoir justement transmettre.
D'où est venu cet attrait du métier ? Qu'est-ce qui te plaît justement dans le contact avec les élèves ?
Cet attrait est venu quand j'étais déjà lycéen au Maroc. Je suis originaire d'un petit village, il n'y a pas beaucoup de contrôle et j'ai mon frère qui était instit dans cette école. Et quand il y a un instituteur absent, eh ben je prenais des fois les élèves, alors que j'avais 15-16 ans, je prenais des fois les élèves pour une matinée ou un truc comme ça. Et puis c'était... Je ne sais pas, il y a une exaltation, il y a quelque chose, il y a un plaisir de se retrouver de l'autre côté, donc en face des élèves, en face des tables, et ça m'a plu. Mais je ne voulais pas pour autant faire mon métier. J'ai toujours voulu être ingénieur agronome quand j'étais jeune, jusqu'à la fac vraiment, mais j'ai pris ce métier parce que j'aimais bien, et puis quand j'ai commencé en tant que maître OX, je suis tombé dedans, et puis voilà. Donc voilà comment c'est venu.
Qu'est-ce qui te passionne le plus donc dans ton métier ?
Alors, passion, j'aime pas le mot passion, c'est-à-dire si c'est un amour vraiment qui aimait quelque chose qui devient un petit peu paralysant et tout ça, non, j'aime pas. Par contre, j'aime bien enseigner. Pourquoi j'aime bien enseigner ? Parce qu'il faut transmettre quelque chose. Et transmettre, moi, c'est, pour moi, l'enseignement, c'est une course de relais qui tourne depuis longtemps. Et puis...
C'est un marathon.
Voilà, mais oui, c'est en plus ce relais, c'est d'avoir quelque chose de quelqu'un et de transmettre à la génération future. Et ça, c'est très bien. Moi, ça m'a toujours... C'est exigeant, c'est passionnant, si on veut, dans ce sens du terme. Mais il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui nous bouffe et qui la passion qui ne sert strictement à rien. Passionné, c'est... que ça reste dans des limites raisonnables.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste concrètement ton métier ? Bien sûr, il y a la partie devant les élèves, mais il y a tout un travail derrière.
Bien sûr, quand on arrive devant les élèves, comme je viens de le dire, c'est transmettre. Donc on est dans la phase de la transmission. On a appris quelque chose, qu'on a préparé chez soi et qu'on va essayer de transmettre aux élèves. Donc devant les élèves, c'est la transmission. Donc là, il faudrait avoir, ne pas oublier cette phase-là, parce que c'est une phase très importante où on va passer. Mais bien sûr, derrière tout ça, pour faire passer quelque chose, il faudrait l'avoir appris d'une part, et puis le mettre aussi au goût du jour et au goût des élèves et à la portée de tout le monde. Et donc ça demande vraiment des préparations. Quand on est un vieux prof comme moi, bon, ça va, on a de l'expérience, on sait, on s'y prend bien comme il faut, mais on ne travaille pas beaucoup, on travaille quand même, mais pas beaucoup. Quand on est jeune, et ben, les 35 heures, ça n'existe pas pour nous. Il faut travailler, corriger, préparer. Et donc voilà, cette partie, c'est la partie qu'on voit devant les élèves émerger de l'iceberg. Mais sinon, il y a tout un truc tout en dessous. Hein. Donc c'est ça qui nous permet de flotter toujours hein, devant les élèves. Mais on ne voit que cette partie.
Donc au début de ta carrière, tu travaillais donc, le soir, les week-ends, les vacances scolaires pour réussir à, à préparer ton programme pour ton année. Donc maintenant, c'est un peu moins le cas, c'est ça?
C'est un peu exagéré, je dirais pas que je travaille le soir, la nuit, les vacances. Non, pour moi, les vacances, quand même, c'est sacré. Je prends quand même un temps pour me reposer. Sinon, on va arriver épuisé devant les élèves et ça ne marcherait pas non plus. Non, non, je travaille raisonnablement et je crois qu'il faut que ça reste raisonnable. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, le métier, il ne faudrait pas que ça soit une passion dévorante et tout ça et que ça n'apporte rien. Il faut aimer son métier, savoir passer les choses, mais bien sûr, prendre le temps pour soi aussi, pour pouvoir respirer, être équilibré, pour pouvoir enseigner.
Donc, il n'y a pas de journée type.
Si on veut un schéma général, on peut avoir une journée type, mais il n'y a pas de journée type. Déjà, rien, il n'y a pas d'heure type. Hein. On a des élèves, c'est selon les classes, il faut s'adapter. Donc, une journée type, si on veut, dans les grandes lignes, préparer un cours, être devant les élèves, transmettre, préparer, corriger, oui, on peut avoir une journée type comme ça. Mais selon le profil des élèves, selon les établissements dans lesquels on exerce, selon les circonstances, bon, on n'a pas toujours, il n'y a pas de journée vraiment type, ça varie, tant mieux.
Et donc, quelles sont les qualités nécessaires d'un bon professeur?
Alors là, beaucoup, 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 et justement, je ne vais pas dire que le professeur ne doit pas avoir, s'il n'a pas de qualité, c'est très grave. Mais bon, les qualités importantes, ben, il faudrait savoir être à l'écoute des élèves, ça c'est très important. Donc, se mettre aussi au niveau des élèves, savoir être clair pour passer ce qu'on a passé, simple et clair, passion. Il y a beaucoup de qualités, sans oublier l'organisation, si on n'organise pas bien ces choses. Donc, toutes ces qualités, et j'en oublie, parce qu'il faut vraiment à l'écoute. Et il y a aussi une autre qualité très, très importante, c'est qu'il faut se remettre en question pour progresser, parce qu'avec les élèves, pour se mettre au goût du jour, je le disais tout à l'heure, oui, il faut s'adapter. Et donc, si on ne se remet pas en question, pour écouter, pour progresser, pour adapter ce qu'on a à faire passer, bon, c'est difficile. Donc, il faut avoir toutes ces qualités-là. Qualité d'écoute, d'organisation, de se remettre en question, et puis tout ça pour pouvoir vraiment enseigner. Sinon, on va à l'échec, quoi, et aux difficultés.
Je me suis toujours demandé comment est-ce que les professeurs réussissaient justement lorsqu'ils faisaient un exercice ou qu'ils préparaient un contrôle ou autre, de se mettre vraiment au niveau des élèves. Après, les mathématiques, ça doit être un peu plus facile vu qu'il y a un programme et que tu sais à l'avance que telle classe doit étudier telle chose telle année. Mais ça doit quand même être compliqué de son point de vue d'adulte de se dire est-ce qu'il va comprendre la consigne, la question.
Oui, c'est difficile. C'est pourquoi justement on a besoin de former vraiment les enseignants, surtout en début de carrière. Après, avec le temps, tous ces trucs-là, on le sait, parce que quand on est devant les élèves, on arrive à voir ce qu'ils ont comme difficulté. Et c'est ça qu'on va normalement acquérir tout au long de sa carrière. Et c'est pourquoi il faut aussi des formations régulières pour qu'on soit à la hauteur de ce qu'on veut faire. Parce que si on demande des choses dures aux élèves, eh bien on les met devant l'échec et puis c'est pas bon. Si on met que des choses faciles, ils peuvent croire aussi que tout est facile. Donc il faut savoir vraiment adapter. Et ça se décrète pas. C'est-à-dire, il faut travailler, il faut voir ses élèves, connaître ses élèves pour vraiment essayer de faire à leur niveau. Et les exercices, bon, bien sûr, nous, on est aidés, comme tu viens de le dire, il y a des, dans des livres, on a des exercices des fois, étoile, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, et puis nous, on sait ça, même sans vraiment, on sait ce que les élèves sont capables de faire et on s'adapte au public. Un public d'élèves en ZEP, ce n'est pas comme un public d'élèves dans des zones favorisées, ce n'est pas pareil. Donc, il faut savoir s'adapter selon le milieu, selon les élèves, et puis, bien sûr, dans une classe aussi, on n'a pas toujours le même type. Donc, on essaie de mettre des choses que certains peuvent faire, d'autres peut-être pas, et on sait s'adapter à tout ça.
Et justement, est-ce que tu as eu des cours de pédagogie ou pas du tout ? Enfin, je sais que ça ne vaut jamais le terrain.
Alors moi, pédagogie, non. Parce que j'ai commencé, j'ai tout appris comme ça sur le tas, parce que j'ai commencé en tant que maître OX. Donc ma première journée de cours, j'arrive, j'ai été recruté comme ça, en faisant un entretien avec un chef d'établissement. Et puis j'étais devant les élèves direct le lundi matin.
T'as vraiment un peu balancé.
Un peu, oui. En tant que maître OX, c'est ça, parce qu'il y avait urgence. Les élèves n'ont pas de prof devant eux. Et donc c'est là que nous, on commence à se questionner. Bon, et c'est pourquoi il faut. Moi, je crois que ça forge aussi, mais bon, ça peut aussi noyer certains. Mais bon, moi, j'ai pas fait l'UFM, j'avais pas fait l'INSPE ni rien du tout. D'ailleurs, quand j'ai passé le concours, parce que j'étais, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, étranger, donc j'avais pas le droit de passer le concours. J'ai attendu d'avoir la nationalité française, parce que pour être fonctionnaire, il faut la nationalité. Donc, j'ai attendu et j'ai fait quand même 10 ans comme ça, de maître OX. Voilà.
En tant que maître OX, je me demande, est-ce que tu étais quand même... Tu avais quand même pas tous les droits d'un fonctionnaire, donc... Enfin, tu n'étais pas payé, par exemple, les mois. Tu étais payé sur 10 mois et pas 12. C'était quand même étalé sur l'année.
C'était étalé sur l'année, mais c'était pas. On faisait le même métier, mais pas le même salaire, effectivement. Et donc, oui, on n'était pas considéré parce qu'on n'était pas titulaire. Hein, c'est du personnel non titulaire. Donc, forcément, on fait le même métier sans vraiment être payé de la même façon que les autres. Et les échelons et tout ça, c'était pas pareil. Il y avait aussi une échelle comme ça, mais MA1, MA2, MA3, et puis vous avez dans les échelons, échelon 1, échelon 2, 3, 4. Bon, mais ce n'était pas du tout les mêmes grilles. Donc ça, effectivement, il y avait ce problème-là.
Tu as commencé dans une... alors, à l'époque, je ne sais plus si ça s'appelait déjà ZUP ou REP, ou dans un collège, je ne sais pas, de niveau moyen ou de bon niveau.
J'ai commencé dans un collège sensible à Blois, zone sensible. Donc, bon, c'était un peu difficile, c'était en ZEP de Blois. Donc, moi, le public me convenait très bien. Donc, d'ailleurs, j'ai demandé à rester, j'y suis resté, je crois, 2-3 ans en tant que maître auxiliaire là-bas. Ça m'a pas déplu.
Donc, j'imagine que les conflits avec les élèves font partie des contraintes auxquelles tu dois faire face.
Eh bien, sincèrement, pas tellement. Pas tellement. Je pense que les élèves respectent. Je pense qu'il faudrait quand même poser les limites au début. Si on pose les règles dès le début, en limitant ce qu'on peut dire, là on peut intervenir, on n'intervient pas. Je crois que si le professeur pose toutes ces limites là au départ, il n'y a pas vraiment de conflit. Les élèves comprennent très bien. Et ça se passe plutôt bien. Franchement, j'ai fait pas mal d'établissements. J'ai fait les lycées professionnels, le lycée général, j'ai fait les collèges dans différentes zones. Hein. J'étais à Blois, donc en ZEB. J'étais à Saint-Pierre-des-Corps pendant 8 ans, donc aussi en ZEB. J'étais au Sanitas en zone sensible 2 ans. Non, j'ai fait de la campagne, Neuilly-Pompierre. J'ai fait pas mal d'établissements. Jamais de problème. Je ne peux pas dire que j'ai rencontré des difficultés avec les élèves ou qu'ils étaient désagréables ou cherchaient des conflits. Jamais.
Comment tu arrives justement à poser tes limites et tu commençais le début de l'année scolaire en fait. Tu leur dis non, ça ne peut pas. Enfin, je te laisse.
Oui, en début d'année, effectivement, avant d'avoir les classes, bon, on prend une heure pour expliquer comment on fonctionne, ce qu'on attend des élèves, ce qu'on va faire, le programme, justement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on a le droit de dire, comment intervenir si on a à intervenir, et puis bien sûr, je ne dis pas qu'au cours de l'année, il n'y aurait pas un élève qui tenterait un petit peu de transgresser les limites qu'on dit, mais il faut le remettre à sa place gentiment et puis les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire si on essaie de lui dire non, ça c'est pas faisable, c'est pas agréable et c'est pas comme ça que tu vas te rendre intéressant. Je crois que l'élève comprend parfaitement et puis il se tient à sa place et tout se passe bien. Chacun fait ce qu'il a à faire et les moutons sont bien gardés.
Donc, si tu n'as pas rencontré de soucis avec les élèves jusque-là, est-ce que d'un point de vue administratif, tu aurais des points négatifs ou autres
Alors, du point de vue administratif, alors la question, est-ce que c'est du point de vue de l'administration, c'est-à-dire la hiérarchie, ou bien du point de vue administratif, nous, ce qu'on a, les tâches administratives qu'on a à faire?
Oui, c'est ça, les tâches administratives, et puis même, enfin,
Oui.
tout, ma
Oui,
question
voilà.
englobe tout.
Ouais, voilà. Donc, au niveau des administrations non plus, j'ai jamais eu de problème, non, ça se passe bien.
La hiérarchie est toujours compréhensive.
Bah, elle est compréhensive, oui. Du moment qu'on est compréhensif soi-même, je crois que si on respecte soi-même les gens, on est respecté. Moi, je pars de ce principe. Et en tout cas, c'est mon cas. Jamais, j'ai rencontré de difficultés avec la hiérarchie, de quelle manière que ce soit. Ça se passe toujours bien. Alors, les tâches administratives, on n'en fait pas, nous, puisqu'on est concerné par la partie pédagogique. Et c'est vrai, de ce côté-là, on est quand même privilégié. J'aime bien enseigner, je crois qu'on le fait, mais bon, il y a de temps en temps, quand on est prof principal, on s'occupe de quelques petites bricoles, mais ça reste vraiment très limité. 99%, 18%, c'est quand même de l'enseignement, de la préparation, de mon temps. Donc, pas de souci de ce côté-là non plus.
Selon toi, quels sont les points positifs du métier de professeur?
Bon, ben, y a beaucoup, là encore, comme je disais, pour les qualités, il y a aussi beaucoup de points positifs, il faut pas le nier. Les points positifs, ben, si on commence déjà d'un point de vue sans rentrer dans la pédagogie, ben, quand même, on est fonctionnaire. Donc, on a un métier stable, on sait ce qu'on va faire, on peut tracer, on peut s'organiser, on a des vacances, on peut respirer. Donc, c'est quand même, ce côté-là, c'est bien. De l'autre côté, les points positifs, c'est qu'aussi, on contacte avec les jeunes et ça maintient quand même quelque part jeune parce qu'on essaie de s'adapter, on est quand même, on fait des choses, on se forme régulièrement et c'est bien pour nous aussi parce qu'on est au courant des choses. Je pense que il y a beaucoup de points positifs, hein, et puis j'en oublie sûrement.
Comment as-tu vu le métier évoluer au cours des années?
Alors là encore, bah, l'évolution, c'est. Ben moi, le métier, par exemple, en tant que métier de prof, je n'ai pas connu la blouse grise, hein, de professeur ancien, mais je suis quand même parmi anciens, puisque je me rapproche plus de la retraite que du début de carrière. Donc, ça a évolué, hein. On était avec la craie, les tableaux verts et tout ça, on passe au tableau blanc, mais surtout, c'est au niveau numérique que ça a tellement bougé pour les maths. On a des logiciels de géométrie numérique et c'est bien, parce qu'avant, ça nous prenait du temps de tracer. Là, maintenant, on peut faire, et puis c'est ludique pour les élèves. Donc, le métier évolue, mais aussi, ça va avec des inconvénients. Qui beaucoup de dossiers à remplir qu'on n'avait pas avant. Tout est numérique et on y va, et des réunions, ça a évolué. Bon, il y a de bonnes évolutions, d'autres un peu moins drôles, mais bon, globalement, c'est positif quand même.
Et donc pour toi, quelles sont tes propres perspectives d'évolution? Est-ce que tu veux rester là où tu es ou est-ce que tu as déjà essayé de passer l'agrégation par exemple?
Non, moi je reste là où je suis parce que là c'est trop tard pour passer quoi que ce soit. Il faut se remettre dans le bain. Et puis il me reste que quelques années, donc je reste en tant que certifié, c'est tout. Et puis perspective, je ne veux pas être ni personnel de direction, ni pour les
Oui, c'est
inspections,
vraiment
ni
l'enseignement qui te
formation.
plaît.
Oui, j'aime bien être au contact avec les élèves et je pense que c'est là où je serai le plus efficace. Et je pense que c'est là que. Moi, la chose qui me fait plaisir, c'est surtout ça, c'est d'être au contact des élèves. Et autant j'aime ça, autant je déteste faire tout ce qui est papier, tout ça, parce que c'est pas l'administration, franchement, c'est pas pour moi. Je préfère être sur le terrain de la pédagogie avec les élèves.
Je tenais juste à rappeler que un professeur qui vient d'avoir son CAPES ou même l'agrégation ne peut pas enseigner où il veut, on le place en tout cas dans le public. Toi, où est-ce que tu as enseigné juste après ton CAPES et comment est-ce que tu as vécu cette situation?
Ben, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais fait déjà 10 ans de maître Ox, donc forcément j'avais un peu d'ancienneté. Et donc, quand j'ai eu mon.
Et ça t'a valu des points, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et
D'accord.
puis j'étais là, je venais d'être marié, j'avais une fille, donc j'avais des points et j'étais pas loin, je suis resté vraiment dans l'académie. Donc j'étais nommé à Saint-Pierre-des-Corps, pas loin, bah, dans une. Mais c'est moi qui avais demandé, parce que j'aimais bien être en contact avec le public de ZEP. Donc j'aimais bien enseigner des élèves en difficulté, ça m'intéressait. Donc j'ai demandé justement, à l'époque, le Collège du Sanitas Pasteur avant qu'il ferme, et Saint-Pierre-des-Corps, bon, j'avais en deuxième vœu, je crois que c'était Oui, Saint-Pierre-des-Costes est vraiment mon deuxième vœu, et puis bon, ben, je suis resté là.
D'accord, donc tu n'as pas du tout fait une tonne d'aller-retour entre les régions et les académies alors?
Non, l'académie, j'en ai connu qu'une, c'est l'académie d'Orléans-Tours. Et puis, par contre, j'ai fait des allers-retours quand j'étais maître Ox, hein. J'étais à Châteaudun, j'ai fait, comme je disais, du lycée pro, du collège dans les communes rurales, du collège en ville. J'ai fait un petit peu tout. Hein. Donc, forcément, mais bon, ça reste le plus loin, je crois, c'était Châteaudun.
Que tu étais maîtrox, comment est-ce que tu as réussi à te construire une stature d'enseignant justement?
Ben, je crois que ça va tout seul. Ça, c'est dans la personnalité. Je sais pas. Les élèves ne me voyaient pas comme maître Ox. Surtout que la plupart du temps, j'étais nommé à l'année minimum, et voire des
D'accord.
fois même 2, 3 ans. Et donc, on m'a jamais perçu. Les élèves, en tout cas, ne me percevaient pas comme maître Ox, comme un remplaçant. Parce que j'ai toujours été nommé sur un poste, pratiquement. Au départ, c'était comme ça, et j'ai fait même 2 ans. J'ai dit à Blois, c'est 2 ou 3 ans. Donc j'ai fait que des. C'est rare que je fasse un remplacement de 3, 4 mois. C'était rare. Mais donc on a une classe, on a enfin des classes, et puis on est professeur. Pour les élèves, c'est un professeur, c'est pas un remplaçant ni un maître auxiliaire.
On passe à un tout autre sujet. Comment est-ce que tu arrives à préparer tes cours et les évaluations? Est-ce que par exemple c'est au fil de l'année ou pendant les vacances scolaires?
Non, moi je disais tout à l'heure, les vacances, quand même, c'est sacré. Je travaille un peu, je ne dis pas les premiers jours ou les derniers jours, mais je prends quand même une bonne partie pour me reposer. Après, je prépare au fur et à mesure. Là maintenant, comme je le rappelais aussi, avec l'âge, j'ai déjà quand même une banque de choses qui sont déjà faites, donc je pioche dedans, je varie, donc je ne fais plus. Donc on crée de temps en temps, mais souvent on a quand même pas mal de choses qu'on refaçonne d'une façon ou d'une autre pour adapter. Mais bon, c'est du travail, c'est pourquoi je disais, ça nous prend beaucoup moins de temps avec l'expérience et avec le temps.
Et est-ce que tu arrives à gérer justement le programme avec tes envies?
Mes envies, c'est-à-dire mes envies personnelles, ce que je
Oui.
fais, ma vie, ou bien avec ce que j'ai envie d'enseigner.
Avec ce que tu as envie d'enseigner?
Bah, je crois qu'on a une certaine liberté pédagogique.
Oui, quand même, malgré les programmes
Il y a les
imposés.
programmes, bon, ben bien sûr, il y a l'ossature, mais on peut l'habiller comme on veut. Quand on a un
D'accord.
squelette, eh ben, on peut l'habiller comme on veut, on peut lui mettre la peau qu'on veut, les cheveux qu'on veut. Donc on a une certaine liberté, on a le squelette qui est les programmes. Hein. Pythagore, c'est Pythagore, ça ne change pas. Thalès, c'est Thalès, ça ne changera pas. Résolution d'équation, mais on peut trouver des manières pour faire, et donc adapter, oui. Donc on a quand même la liberté pédagogique. Moi, personne, les inspecteurs nous ont toujours dit que vous avez le choix de faire ce que vous avez à faire, donc on fait. Bien sûr, ben, il y a le programme, on est fonctionnaire, donc on doit exécuter un programme, donc on est dans la fonction publique, donc il faut faire ça. Ben, une fois que les choses sont dites, claires, ben, c'est à nous de trouver le chemin pour les faire passer. Et puis, comme je disais, ça dépend du public qu'on a en face. On ne peut pas faire passer Pythagore de la même façon pour tous les élèves, même si c'est le même théorème. On peut l'amener de différentes façons. On peut expliquer une résolution d'équation ou comment entrer dans le calcul littéral de différentes façons pour les élèves, les amener donc selon le public qu'on a, et on s'adapte. Donc c'est là où il faut vraiment une bonne. C'est la qualité d'adaptabilité des professeurs au public qu'ils ont en face.
Vu que l'on est dans le cadre de tout ce qui est programme, là, au cours de ma question, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu penses des réformes ministérielles? Par exemple, en mathématiques, il va y avoir la réforme singapourienne, le programme singapourien qui va être mis en place à partir du collège, alors que c'était en école primaire, non?
Alors, je ne sais pas ce que vraiment on nous parle de ce programme de Singapour. Je ne sais pas exactement ce que c'est ni ce que ça veut dire. Ben, on fait, je crois qu'on fait des choses. On cherche. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas une recette miracle, comme je viens de dire, qu'on va nous dire de là-haut et on l'applique. Voilà, le programme est tracé, on fait. Je crois que en maths, on nous dit, voilà, donc il faut y aller, il faut chercher. Bien sûr, il faudrait passer par des activités, de recherche. Je crois qu'il faut une phase de recherche pour les élèves. Et il faudrait, après une fois cette phase de recherche qui est faite, trouver quelque chose d'essentiel qu'il faut écrire et qu'il faut retenir. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait procéder. Une fois qu'on a ça et que les élèves ont l'essentiel à retenir après une activité qui, de préférence, qui dégage eux-mêmes et qu'on leur donne pas comme ça, tiens, tu notes ça, tu apprends ça, alors on ne sait pas pourquoi. Donc une fois qu'on a fait ça, je crois que l'élève a bien compris, qu'on appelle ça méthode de Singapour ou qu'on l'appelle la méthode de Shanghai. Moi, les méthodes me vont du moment que les élèves arrivent à assimiler, à comprendre ce qu'ils ont à apprendre dans leur année, par exemple, ou dans le programme du cycle.
As-tu donc des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait devenir enseignant ?
Oh, je m'abstiendrai de donner des conseils, mais bon, on vient de résumer un petit peu le métier d'enseignant. Bah, il faudrait déjà savoir si c'est vraiment le métier fait pour soi. Si on est fait pour ce métier-là et qu'on veut bien le faire, bah, il faudrait juste savoir, justement, pour ne pas tomber dans des petites difficultés et tout ça, poser des limites pour les élèves et tout ça. Prendre confiance en soi, c'est très important, parce que si on laisse transparaître quoi que ce soit, donc ça risque d'être difficile à gérer, et puis les réputations, c'est vite fait, et puis c'est dur. Donc quand on a envie d'être professeur et qu'on est jeune prof, il faut quand même arriver, et puis il faudrait qu'ils n'hésitent pas, les jeunes profs, moi je le dis toujours, à demander de l'aide quand ils arrivent dans un établissement, parce que personne n'est parfait quand on arrive. S'il y a besoin, par exemple, de se renseigner, de demander, bah, pourquoi pas. Mais bon, des conseils, je pense que tout le monde peut vraiment faire ce métier si vraiment on veut bien le faire et qu'on a les qualités pour.
Pour conclure cette interview, est-ce que tu as un meilleur souvenir à nous faire partager en lien avec ton métier ?
Oui, les meilleurs souvenirs, ça. Bon, moi, j'en prendrai pas qu'un, je vais en prendre deux.
D'accord.
Donc, un, pédagogiquement parlant, parce que ce qui me plaît, c'est de travailler avec les élèves qui sont en difficulté. Quand je vois le regard d'un élève s'illuminer parce qu'il a compris ce qu'on veut faire passer, ça fait plaisir. Et quand aussi on voit qu'un élève qui n'est pas en difficulté, mais qui aime ce que vous dites, et que ça fait plaisir. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai une ancienne élève qui est revenue me dire bon, qu'elle veut être stagiaire. Elle m'a demandé à faire le stage avec moi, et puis je crois que c'est de L3. Et puis, parce qu'elle a envie d'enseigner les maths, et elle a dit parce que vous m'avez donné envie de faire ce métier, et ça fait plaisir. Là, c'est un souvenir qui fait plaisir à un professeur quand il rencontre ça. Ça, c'est de point de vue pédagogique. Et puis, ça m'est arrivé de voir des élèves vraiment, quand ils comprennent et qu'ils nous le disent, c'est des souvenirs qui nous marquent. Il y a des noms, tout ça qui reste. D'un point de vue personnel, aussi les élèves, avec deux collègues, quand j'étais à Saint-Pierre-des-Corps, ils m'ont fait une surprise parce qu'il y avait une sortie, mais moi je ne savais pas qu'ils connaissaient ma date de naissance aussi bien les profs. Je crois que ça c'est venu d'un collègue. Et donc on faisait la sortie à Versailles. Et donc ce professeur Gaël, qui doit être toujours dans la région, et il avait organisé ça, ils ont fait un gâteau, et puis ils ont pris une bouteille de champagne qu'ils ont transformée, vidée, mais ils ont mis une bouteille d'eau, enfin, parce que comme je ne prends pas d'alcool, donc une bouteille d'eau, ils ont organisé tout ça, ils ont pris tout ça dans leur sac. Et bien je les remercierai jamais assez, parce que c'était très sympa. Et à Versailles, à midi, quand on mangeait nos sandwichs, ben ils ont sorti le gâteau, ils m'ont souhaité mon anniversaire, et tout le monde a commencé à chanter sur le truc là devant le château de Versailles. Les touristes, les élèves, ah ben ça c'est un souvenir inoubliable. Ça vraiment c'est resté, c'est très sympa. Voilà.
Eh bien Abdelaziz, franchement merci pour cette interview, c'était très intéressant et tu as vraiment fait transparaître, tu n'aimes pas le mot passion, mais alors ton amour pour ton métier.
Voilà, et ben c'est un métier que j'aime, qui est exigeant mais que j'apprécie. Merci beaucoup à toi.
C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt !